Alors je vous invite maintenant à prendre le chapitre 27 des Actes des Apôtres. On va donc faire un commentaire de ce chapitre au fil du texte parce qu'il est long. Et on va se laisser exhorter par la parole du Seigneur. Chapitre 27 des Actes des Apôtres. Quand notre embarquement pour l'Italie a été décidé, on a confié Paul et quelques autres prisonniers à un dénommé Julius, officier de la cohorte impériale. Nous sommes montés sur un bateau d'Adriamite qui devait faire voile vers les côtes de l'Asie et nous sommes partis. Si je regarde les chapitres précédents, nous nous apercevons que Paul, comme on l'a dit les dernières prédications, a été gardé à Césarée pendant près de 2 ans. Nous savons aussi que Paul avait été travaillé par l'Esprit Saint et il avait répondu. Il savait qu'il devait aller à Rome, porter la bonne nouvelle, sans doute aux chrétiens de l'Église de Rome déjà constituée, mais aussi à la maison de César, donc pour témoigner de l'Évangile dans la capitale. On peut penser que ça n'a pas été facile pour lui d'attendre, de piaffer d'impatience, si j'ose dire, pendant près de 2 ans. On peut penser peut-être que le plan de Dieu était tenu en échec. Je voudrais vous dire que non, que ces 2 années passées, donc en attendant à Césarée, ont été riches de bénédictions à la fois pour Paul et pour ceux qui ont pu l'entourer. Car en réalité, quand vous lisez les textes, ces 3 chapitres, les 2 précédents et celui-là, eh bien, enfin celui-là c'est le naufrage, donc les 2 chapitres précédents, eh bien, on voit que Paul a eu un statut à part à Césarée. Il était consigné, c'est sûr, hein, mais il pouvait recevoir tous les gens qu'il voulait, qui venaient le voir, qui pouvaient l'écouter, pouvaient échanger avec eux. Et à Césarée, il y a une église locale. Et ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas dans ce passage des Actes que ça n'a pas existé. Et si je regarde les quelques chapitres précédents, je m'aperçois que Paul, juste avant d'aller à Jérusalem, où il va se faire lyncher, hein, vous connaissez le passage, eh bien en fait, il va loger chez qui ? Chez un chrétien de l'église de Césarée, qui s'appelle, vous le connaissez tous, le diacre Philippe, l'évangélisateur de toute la côte d'Israël. Logiquement, pendant ces 2 ans, on peut penser, mais c'est de l'évidence, les chrétiens s'aiment, n'est-ce pas ? Ils ont le même projet. Eh bien, en fait, l'église locale de Césarée a correspondu à aider l'apôtre Paul. Et peut-être que le centurion romain en question, qu'on va parler, et d'autres soldats de la garde du gouverneur qui résidait à Césarée, ont pu entendre ce que disait Paul et ce qu'ont dit les autres chrétiens de cette église de Philippe. Une église dynamique. On parle uniquement du diacre Philippe, mais il avait aussi 4 filles qui, nous dit-on, étaient prophétesses. Au sens du Nouveau Testament, ça veut dire qu'elles annonçaient l'économie du salut de la croix. Elles l'annonçaient, ainsi que leur père d'ailleurs. Tel père, telle fille peut-être. Non, on ne va pas dire ça. Hein. Mais donc voilà, elles annonçaient l'évangile aussi. C'était une église dynamique. Une église dynamique. Et j'aime entendre et j'aime voir et je remercie le Seigneur de voir que finalement Paul, dans cette attente, parce qu'il tenait à aller à Rome, hein, quand vous avez un projet, vous ne pouvez pas le faire, c'est quand même embêtant. Vous souffrez de ça. Eh bien, en fait, il a été aidé, accompagné par d'autres chrétiens qui lui ont apporté. Et en même temps, lui, il les a assurés dans leur foi. Paul est un enseignant hors pair. Quelqu'un qui motive les gens. Donc voilà, ces 2 années passées à Césarée n'ont pas été vaines. Et on peut même aller encore aller plus loin. 20 ans auparavant, qu'est-ce qui s'était passé à Césarée ? Eh bien, à Césarée, c'est là que le premier païen est converti, Corneille. Il habitait Césarée, il était soldat comme ce centurion de la garde du gouverneur. Alors vous allez me dire, 20 ans c'est long, oui. Mais il était de la Légion italique, donc il était italien, il a fait un contrat. Et les contrats dans l'armée romaine, les légionnaires, c'était combien ? 25 ans. Ce qui ne veut pas dire qu'il était là forcément, parce que les 25 ans, ça court au début du contrat. Peut-être que quand Corneille se convertit au Seigneur, il a déjà fait pas mal d'années, donc ça ne veut pas dire qu'il est forcément là. Mais on peut le penser aussi. Et quand on pense que Corneille est le est un païen converti, un Romain, un Italien, si vous voulez, converti, et que Paul est l'apôtre des païens qui veut aller à Rome, on peut voir déjà là une attache, voyez. Retenons de ça que nous avons chacun une fonction à remplir, comme l'apôtre Paul, et que des fois on peut être embêté, connaître des obstacles dans la vie, et ce n'est pas facile à vivre, parce que la vie n'est pas facile à vivre, mais Dieu nous donne des aides. Les frères et sœurs des églises locales et d'autres qui nous aident, qui gardent notre foi. Tout au long du chapitre qu'on va commencer, on va voir des catastrophes qui s'amoncellent. Et amoncellent, c'est même des montagnes très hautes. Hein. C'est des catastrophes terribles. Hein, le sauvetage. Et en même temps, il va nous être dit que la bienveillance de Dieu est avec toi, Paul. Et le temps est mis au parfait, ce qui veut dire qu'il existe depuis longtemps, cette bienveillance. Elle existe depuis longtemps. Elle était déjà là quand il attendait pendant 2 ans de pouvoir partir. Donc il part. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il fallait qu'ils attendent, une fois que c'est décidé, évidemment, c'est les Romains qui décidaient. Hein. Donc il fallait attendre un caboteur, un bateau qui puisse passer au port, et qui s'arrête et qui prenne les prisonniers, si vous voulez, et qui les emmène plus au nord. Hein. Donc en fait, il trouve un bateau de ligne, hein, il vient de Andrimite, c'est un port en fait en dessous de, enfin sur l'Asie mineure de la Turquie, en dessous du détroit des Dardanelles, qui était l'avant-port de Byzance, enfin dans l'Antiquité. Donc c'est un port, c'est un bateau qui fait tous les ports, toute la côte, ça prendra du temps. Et donc l'espérance du centurion, soit il va jusqu'au bout à Andrimite, et là il prend des lignes régulières parce qu'elles existaient de bateaux entre Byzance, Andrimite et Rome, soit quand il s'arrête dans tous les ports, hein, et ben en fait il trouve à un moment donné un bateau qui va directement sur l'Italie. C'est un petit peu le plan, si vous voulez. Hein. Mais déjà il y a la bienveillance du Seigneur, parce qu'en fait, en réalité, lorsqu'on transportait des prisonniers, on ne leur offrait pas le bateau. Alors c'est incroyable, hein, ils marchaient à pied. Ils faisaient les marches à pied. Quand vous lisez les textes antiques de transport de prisonniers, le plus courant, c'était à pied, en fait, avec l'armée qui quadrillait de poste en poste. En fait, on les acheminait, on leur donnait à manger la pitance, et puis ils y arrivaient. Bon, mais vous voyez, des kilomètres. Et là, ça se passe en bateau. C'est déjà, une bienveillance. Ensuite, ces autres prisonniers, nous dit le texte, ils sont d'une nature différente que Paul. Oui, ce sont des condamnés à mort. Paul n'est pas encore condamné. Il a choisi d'être jugé à la maison de César, tandis que les autres sont des condamnés à mort, et comme tel, alors c'est bien connu dans l'histoire de l'Empire, et ça se développe d'ailleurs à ce moment-là à partir de l'Empereur Claude, donc même, voilà, un petit peu, on a Néron un petit peu après, on pourvoit les jeux de l'amphithéâtre. On pourvoit en condamnés à mort les jeux de l'amphithéâtre. C'est-à-dire, comme ils sont condamnés à mort, eh bien, en fait, ils vont servir d'instruments au cours des manifestations des jeux. Donc, soit vous deveniez gladiateur. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, les gladiateurs n'étaient pas tous tués. Contrairement à ce qu'on peut penser, au fur et à mesure qu'on avance dans les découvertes des textes, si vous étiez très fort, vous pouviez vous en sortir. On pouvait vous gracier. Il y avait, vous voyez, une perspective quand même. Soit, eh ben, en fait, vous étiez condamné dans l'amphithéâtre à paraître devant des bêtes qu'on lâchait sur vous, des bêtes féroces. Hein, et donc la bête, ben, elle vous tuait, elle vous mangeait. Enfin, voilà, c'était. Et si vous échappiez, vous étiez gracié. Et bien figurez-vous que l'apôtre Paul avait connu ça. Lisez 1 Corinthiens chapitre 15, il me semble. Vous allez voir que Paul a été envoyé aux bêtes à Éphèse. Et le Seigneur l'a gardé, évidemment. Et donc il a été gracié. Mais donc ces autres. Ou alors, chose encore plus barbare, enfin bon, voilà. On utilisait les prisonniers condamnés à mort comme étant des acteurs de théâtre lorsqu'on jouait à un mythe qui entraînait une mise à mort. Le héros était sacrifié. Et donc le héros, l'acteur en question, le condamné à mort, devait jouer la pièce de théâtre et à la fin, il était sacrifié. On lui promettait seulement une mort douce, rapide. Donc voilà un petit peu l'horizon des autres condamnés à mort. Donc c'est une équipe un peu spéciale qui s'en va en bateau avec des condamnés à mort d'un côté, enchaînés et tout, et Paul qui a joui d'un statut spécial. Il a même un statut tellement spécial, vous l'avez lu comme moi, qui l'accompagne dans ce voyage, Luc et Aristarque. Donc en fait, les Romains acceptent que dans ce voyage qui va durer plusieurs mois, hein, eh bien en fait, des personnes complètement étrangères à l'action, hein, qui est menée, et ben en fait puissent accompagner aider Paul durant ce voyage. C'est quand même, ça montre bien le statut. Et je pense que c'est Dieu qui a travaillé et qui a permis. Je ne suis pas sûr que dans les autres convois, c'était permis que chacun amène des siens. Bien sûr que non. Hein. Alors, Aristarque est un collaborateur, un compagnon de Paul durant ce voyage. Je voudrais qu'on s'arrête sur cette personne parce que quand je lis les actes, elle a été convertie par Paul sans doute à Thessalonique dans un voyage missionnaire différent, que ce soit le troisième ou le deuxième, on n'en sait rien. Hein. Mais surtout, il aime tellement Paul qu'il se rend disponible. Et en fait, nous le trouvons par exemple accompagner Paul dans son dernier voyage entre Thessalonique et Éphèse. Ça durait un mois ou près d'un mois. Et puis à Éphèse, il a voulu défendre Paul lors de l'émeute contre les orfèvres. Hein, il y a une émeute à Éphèse par rapport à l'Artémiste. Et en fait, nous constatons que Aristarque a failli être lynché. Parce qu'il a voulu défendre Paul, il a pris la place de Paul. Plutôt qu'exposer Paul, il y était à sa place. Voyez le lien qui unit ces deux frères. Et ensuite, je vais vous dire. Le non-projet de vie de Aristarque, ça veut dire suprême magistrat. Ce qui veut dire dans la vie des cités grecques, quelqu'un qui était très très compétent et très accepté pour gérer la ville. C'est quelqu'un d'important, quelqu'un de très important, Aristarque. Son non-projet de vie est magnifique. D'autres traduisent le meilleur chef, le meilleur guide. Et bien c'est ça le collaborateur de Paul. Et je constate que dans la lecture des actes, il est humble, il n'apparaît pas. Ce n'est qu'un nom qui est cité, collaborateur de Paul, etc. Donc on a quelqu'un en fait de très capable de pouvoir aider Paul et de la même trempe de Paul, et en même temps très humble. Et je pense franchement que Dieu l'a envoyé, Dieu a permis cette disponibilité énorme. Au total, c'est 3 ans. Hein. Parce que là, il va faire le voyage avec lui, puis après, il va rester prisonnier avec Paul pendant 2 ans à Rome. Au total, c'est 3 ans qu'il donne de sa vie pour être avec Paul. Quand on parle toujours du ministère de Paul, il le faisait avec d'autres. D'autres qui étaient humbles, qui ne sont pas notés dans les Écritures aussi peu, mais en fait qui ont beaucoup contribué avec Paul. Et d'ailleurs, Paul le cite dans ses écrits. Lisant les lettres, vous verrez, il est marqué à côté, et à la fin, il remercie et Aristarque est à ses côtés. Il va même partager, je répète, sa prison. Donc le voilà qui part, et puis chose extraordinaire, le centurion qui commande donc le groupe de prisonniers, et ben en fait est bienveillant. Le mot grec c'est philanthropie. Vous voyez ce que ça veut dire ? Il y a vraiment de l'amitié forte et du respect qu'il y a chez ce centurion par rapport à Paul. Moi j'y vois la main de Dieu. Dieu accompagne, Dieu agit. Ça se voit pas comme on l'a chanté, mais Dieu agit. Et aujourd'hui, on peut en tirer une leçon de vie. On a peut-être des difficultés à vivre notre vie, notre existence, remplir notre projet de vie avec le Seigneur, témoigner. Mais on a des frères et des sœurs que Dieu met sur notre route, et nous met ensemble, pour nous aider les uns les autres. Savons-nous le voir ? Savons-nous le voir ? Acceptons-nous dans nos complémentarités ? Parce que Paul a dû beaucoup accepter de Aristarque, le magistrat suprême. Le merveilleux, le chef suprême, mais dans l'humilité. Et ça a plu, cette vision de la vie, ce regard, cette espérance de la vie qu'avait Paul par rapport à Dieu en Jésus-Christ, à travers l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, et bien ça a plu à ce centurion. Et vous allez voir, on va le voir après, cet homme va s'engager énormément pour permettre à Paul d'aller remplir sa mission à Rome. Donc, ils s'en vont, et dès le premier jour, bon, ils font à peu près 80 km, et ils arrivent donc à un port au nord, hein, dans le Liban actuel, à Sidon, hein, en dessous de Beyrouth aujourd'hui, bon, peu importe. Et là, encore une merveille de Dieu, vous avez déjà vu ça, soi-disant une personne prisonnière, ou tout au moins prévenue, qui est emmenée pour être jugée à Rome, et en fait, on la laisse tranquille au port, de dire, bah oui, tu peux aller voir, tu peux aller faire 40 km, tu peux aller voir dans un tel, tu reviendras, oui, ben on t'attend. C'est ce qui s'est passé. C'est ce que nous dit le texte. Mais c'est extraordinaire, le Seigneur a travaillé les cœurs. Et donc Paul a pu aller se ressourcer auprès d'une église à Sidon. Qu'est-ce qui s'est passé à Tyr et Sidon? Il y avait, bah, il y a une église, voilà. Il y en avait d'autres, un petit peu, dans, quand on regarde les actes, il y en a soit Ptolémée, il y avait des églises sur la côte, et on sait que l'évangéliste Philippe avait évangélisé. Mais en plus, à Tyr et Sidon, lisez les évangiles, vous allez voir que Jésus parle toujours différemment de Tyr et Sidon. Parce qu'en fait, c'est comme s'il régnait un climat favorable qui fait que les gens sont sensibles à l'œuvre de Dieu pour eux. Jésus dira par exemple, mais ça c'est 20 ans plus tôt, hein, parce que là, mais 20 ans plus tôt, Jésus avait dit de ce pays-là, eh ben, s'il y avait eu les miracles que j'ai fait autour du lac de Galilée, eh ben, ces gens-là, ils auraient tous cru. Voilà ce qu'il dit Jésus, en parlant des gens de Tyr et Sidon. Et vous savez très bien que Jésus a même été, a quitté la Galilée, et il a été en Syrophénicie, près de Sidon, hein, et il a guéri la fille d'une femme syrophénicienne à Sidon. Et nous pouvons penser que cette femme, elle est toujours vivante 20 ans après. Et vous comprenez que l'apôtre des païens, la mission c'est de parler aux païens, ça l'intéresse de connaître finalement là une païenne qui avait embrassé la foi dans cette personne extraordinaire de Jésus-Christ. Parce qu'elle a témoigné de sa foi. Jésus dira même de cette femme, personne n'a en Israël une aussi grande foi que cette femme, même pas les apôtres. C'est ça qu'il dit Jésus. 20 ans auparavant, on comprend que Paul soit intéressé pour rencontrer une telle église. On n'en dit pas plus, on n'en dit pas même dans les actes des apôtres. C'est une église qui apparaît mineure. Oui, ben, elle va beaucoup apporter à Paul. Nous sommes peut-être une église mineure, etc., et toutes les églises sont peut-être mineures. Eh bien, nous nous apportons les uns les autres. Sachons être disponibles aussi. Vous voyez, hein ? Sachons être disponibles. Donc voilà, donc Paul est revenu au bateau, il faut continuer, c'est le mauvais temps. Et puis malheureusement, eh ben, on devait passer au sud de la Crète, c'est la route ordinaire. Et puis là, non, il fait mauvais temps. Donc ben, en fait, on doit passer entre la Crète, Chypre, pardon, Chypre, on n'est pas encore à la Crète, entre l'île de Chypre et l'Asie mineure. Donc ça retarde, hein, ça retarde. Des variantes du texte disent 15 jours. Ils perdent au moins une semaine de voyage en faisant ce détour, mais on voit bien d'ailleurs qu'ils ont du mal à naviguer. Et puis ils arrivent à un port, donc on va continuer comme à lire. Donc nous avons longé l'île de Chypre, verset 4, parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous sommes arrivés à Myra en Lycie. Là, ayant trouvé un bateau d'Alexandrie qui allait en Italie, l'officier nous a fait monter. Dans ce port, par chance, ils rencontrent un grand bateau, un voilier céréalier. Et ça, c'est connu aussi quand on étudie l'histoire et l'Empire romain. L'Égypte était, rendez-vous compte, l'Égypte était une terre à blé. Et en fait, il y avait des lignes régulières qui sillonnaient la Méditerranée. Mais ce n'est pas avec des moteurs comme maintenant, donc on longe les côtes. Enfin voilà, ce n'est pas les mêmes conditions. Hein. Mais en fait, il y avait des transports réguliers de céréales pour nourrir Rome et la ville, enfin toute la capitale. Hein. Donc, Amir, il y a un bateau qui vient d'Alexandrie qui mouille là avant de partir sur l'Italie. Et le texte nous dit donc que l'officier, en fait, il a trouvé ce bateau-là et il va partir, il va donc quitter le premier bateau, faire quitter le bateau et prendre ce nouveau bateau. Et comme c'est l'armée, bien entendu, à la priorité. Donc, toute la petite troupe monte dans le nouveau bateau. Le texte semble nous montrer d'ailleurs que c'est l'officier qui oblige. Il en porte toute la responsabilité. Hein. Il y a des décisions qui sont difficiles à prendre dans la vie. Rien n'est jamais parfait. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit 15 jours de retard déjà. Nous sommes en limite de saison. Déjà, partir si tard, c'était un peu risqué par rapport aux saisons de navigation. Et là, 15 jours, et là, par prendre la haute mer tout de suite, c'est peut-être mieux qu'aller caboter jusque encore 300 km pour atteindre les Dardanelles. Là, c'est sûr, on mettra plus de temps. Mais c'est quand même risqué. Il faut traverser la mer Égée. C'est une mer qui a beaucoup de courants. Bon. Donc, il a dû prendre cette responsabilité. Rien n'est jamais facile. Dans toutes les responsabilités, dans toutes les décisions, il y a des mauvais côtés. Il faut accepter de les assumer. Donc, les voilà partis sur cet autre bateau. Et donc, pendant plusieurs jours, verset 7, nous avons navigué lentement et ce n'est pas sans difficulté que nous sommes parvenus à la hauteur de Cnide où le vent ne nous a pas permis d'aborder. Donc là, à partir de là, ils vont quitter l'Asie mineure, ils vont fendre la mer pour aller se diriger en biais vers la Crète. Et voilà, nous avons doublé le cap Salmoné pour passer au sud de la Crète. Nous avons longé l'île avec peine et sommes arrivés à un endroit appelé Beauport, près de la ville de Lazée. Parce que théoriquement, ils auraient dû passer au nord de la Crète pour arriver à Corinthe, transborder là, passer de l'autre côté l'Adriatique, traverser et prendre après une voie romaine jusqu'à Rome. Ça, c'est la route ordinaire, beaucoup plus courte. Ils n'y arrivent pas, trop de vent. Et le bateau dérive, il doit passer au sud de la Crète. Et là, c'est la voie de pleine mer. Or, ils sont à la limite, à la grande limite hein, de la saison de navigation. Ils sont peut-être même déjà un peu au-delà. Ce sont des aventuriers, vous voyez. Ce sont des aventuriers. Hein. Bah, c'est mal barré au niveau du voyage. Donc, à cet endroit, à Beauport, donc, la question se pose, est-ce qu'il faut continuer ou pas? Parce que la période de jeûne était passée. Remarquez un petit aparté, vous le retiendrez dans votre lecture biblique. La notion de calendrier n'existe pas dans l'Antiquité. On ne dit pas le 20 janvier, ou je ne sais pas ce que vous voulez, 24 décembre, etc. On fait référence à des manifestations, des événements importants de votre culture. Là, pour les Juifs, Paul est un Juif, ou Luc a écrit pour cet évangile dans la Bible, enfin, ces actes des apôtres, on parle là des jours du jeûne, le jeûne du grand pardon juif, fin septembre, début octobre. Donc, retenez ça, parce que pour les dates de la Pâque, etc., c'est pareil. C'est pareil, il n'y a pas de notion de calendrier, c'est une façon de voir. Donc, la question se pose, est-ce qu'il faut continuer? Et là, Paul, en fait, il va donner son avis. Certains exégètes, donc on va d'abord lire le texte quand même, c'est pourquoi Paul a donné cet avertissement. Mes amis, verset 10, je vois que la navigation ne se fera pas sans dommage et qu'il y aura beaucoup de pertes, non seulement pour la cargaison et pour le bateau, mais encore pour nous-mêmes. Voilà. Paul est porté, il va donner son avis, son expérience. Certains commentateurs bibliques, que je ne partage pas, parce que pour ce positionnement-là, disent il est inspiré par l'esprit et il a une vision spirituelle, il voit à l'avance. Non, quand je regarde le verbe grec théorizo, non, ça c'est de l'examen. Avec son intelligence, vient de la théorème, un principe, quelque chose d'étudié. Donc, c'est toute son expérience qui lui fait dire, bon, on est beaucoup trop tard, et puis vu les conditions et les vents, ça me rappelle des choses. Oui, parce que Paul, tenez-vous bien, mais c'est un type extraordinaire. Paul, lisez Corinthiens, vous allez voir le bilan. Il est déjà victime de 3 naufrages. Il a déjà fait 3 naufrages. Et dont l'un, nous dit-il, il a même passé toute une nuit entière dans l'eau accrochée à un bout de bois, ballotté par les vagues, avant d'être sauvé. Donc, enfin, il sait de quoi il parle, hein. Il sait de quoi il parle. Et donc, il donne son avis. Et ça, c'est bien, je trouve. C'est bien. Mais il ne sera pas écouté. Mais l'officier, verset 11, se fiait plus au capitaine et au patron du bateau qu'aux paroles de Paul. Alors, on peut critiquer ça aujourd'hui parce qu'on voit que finalement, c'est un mauvais choix. Mais bon, lui-même en parlant, t'es soldat romain, t'es officier romain, tu fais confiance en fonction de chacun. Vous avez un pilote de bateau, un capitaine de bateau qui disent différemment. Et bien là, il a écouté les gens professionnels, on va dire. Les gens professionnels. Et puis donc, en plus, nous lisons verset 12, ou plutôt on ne va pas le lire, mais vous pourrez le lire parce qu'il faudra avancer. En fait, ce port, ils ne peuvent pas rester trop longtemps. Parce que s'ils restaient là, il y a quand même, on lira après, 276 personnes dans ce bateau. Donc, il faut les loger, vous comprenez bien. Donc, là, ça ne s'y prêtait pas. Donc, en fait, ils disent, de toute évidence, on ne peut faire que continuer. On espère trouver un peu plus loin un meilleur port, si vous voulez. Donc, les voilà partis. La plupart ont été d'avis de le quitter pour essayer d'atteindre Phénix, un port de Crète orienté vers le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Donc, ça serait reprendre en mars la navigation. Donc, il serait resté 4 mois, si vous voulez. Là. Un léger vent du sud s'est mis à souffler et se croyant maître de leur projet, verset 13, ils ont levé l'ancre et ont longé de près l'île de Crète, donc au sud. Mais bientôt, un vent violent qu'on appelle Euraquilion, un vent de nord-est, s'est déchaîné. Le bateau a été entraîné sans pouvoir résister au vent et nous sommes laissés emporter à la dérive. Alors que nous passions au sud d'une petite île appelée Coda, nous avons eu beaucoup de peine à nous rendre maître du canot de sauvetage. Oui, parce qu'auparavant, ils le laissaient toujours, j'allais dire traîner, mais non, flotter derrière. Donc là, maintenant, il y a tellement de vent qu'ils ont peur de le perdre, donc il faut le mettre sur le bateau, mais c'est autant de place de perdu. Après l'avoir hissé à bord, ils ont utilisé les cordages de secours pour ceinturer le bateau. Ça veut dire qu'ils entourent, vous voyez tout le travail, la coque de corde pour essayer d'amortir les coups et de maintenir serré le plus possible les planches du bateau. Parce que le bateau est complètement secoué dans tous les sens. Et là-dedans, donc les céréales, il y a du poids et ça ballotte et ça va finir par casser. C'est vraiment dangereux. Après l'avoir ici, donc voilà, dans la crainte d'échouer sur la Syrte. Alors la Syrte, ce sont des bancs de sable au large de l'Afrique, au large de la Libye, si vous voulez, ou au large de la Tunisie, entre les deux. Donc ça montre bien que le bateau, il dérive. Et c'est ainsi qu'ils se sont laissés emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, ils ont jeté la cargaison à la mer. Donc ils ont commencé à jeter une partie du blé. Parce qu'il fallait, c'était pas possible autrement. Et le troisième jour, ils ont jeté de leurs propres mains les agrès du bateau, c'est-à-dire tout l'équipement des voiles, les cordages. Donc en fait, le bateau va devenir ingouvernable. Mais là, c'est une question de vie ou de mort. Ils sont complètement dépassés par les événements. Le soleil, verset 20, et les étoiles ne nous ont pas paru pendant plusieurs jours et la tempête a été si forte que finalement nous avons perdu tout espoir d'être sauvés. Parce que dans l'Antiquité, on n'avait pas la boussole, tout au moins chez nous, les Occidentaux, les Chinois peut-être, mais nous, je ne sais pas. Mais nous, on ne l'avait pas. Donc en fait, on pilotait à la vue des étoiles. Là, pendant nuit et jour, pas de visibilité, pas de soleil, pas d'étoiles. Donc autrement dit, on ne sait pas où on est. Et il faut tout l'art du... dans une purée de poids en pleine mer déchaînée, je ne sais pas ce que ça peut donner. Alors en plus, je ne vous l'ai pas dit, le vent de nord-est, le Roquillon, c'est un vent de typhon. Donc il fait des tourbillons, et en fait, il vous emmène à dériver, à tourner. Au total, le bateau fera entre la Crète et Malte 880 km en ligne droite, au moins 1200 en comptant les jeux du vent et les sautes de vent. Enfin, c'est une catastrophe, mais c'est vraiment... c'est terrible ce qu'ils sont en train de vivre. Nous avions perdu tout espoir d'être sauvés. Verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit : Mes amis, il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la Crète afin d'éviter ces dommages et pertes. C'est ce qu'il avait pensé. Moi, je trouve que c'est normal qu'ils le disent, parce qu'il faut quand même se rendre compte. Sur la vie, il était sage. Mais maintenant, je vous invite à prendre du courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Retenons ça. Dieu communique à Paul dans un contexte. Ce contexte, c'est qu'en même temps, de l'autre côté, Paul sert le Seigneur. C'est parce que Paul s'engage avec Dieu que Dieu communique, Dieu parle. Des fois, Dieu te semble absent de ta vie. Peut-être que tu ne cherches pas à servir le Seigneur. Tu ne fais pas sa volonté, tu ne t'engages pas vers lui. Tandis que Paul, lui, il s'engage. Et aussi, Dieu répond, parce que Dieu est fidèle. Acceptons de nous poser la question. Si Dieu est absent de ma vie, est-ce lui qui est loin ou c'est moi qui ne répond pas? Tout à l'heure, Timothée nous a parlé de Jérémie 33-31. La loi dans le cœur. Où est le sanctuaire, le cœur? La loi, le sanctuaire. C'est ce que tu reçois dans ton cœur, cette loi qui est implantée dans ton cœur, cette fonction à rendre. Et alors Dieu est là avec toi tous les jours et il t'accompagne. Matthieu 20, 28. Et là, il était là avec Paul, on l'a chanté d'ailleurs, tu l'as fait chanter le chant. On ne le voit pas, on ne le sent pas, mais il est là. Et oui, un ange du Seigneur a été délégué par le Seigneur pour parler à Paul. N'aie pas peur, Paul, il faut que tu comparaisses devant l'empereur. La première chose qu'il dit, c'est sa fonction. C'est son projet de vie, la première chose qu'il dit. Paul, n'aie pas peur, il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Et voici que Dieu, dans cette traduction, t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. Je suis désolé, pour une fois, je vais quand même dire que on peut accepter cette traduction, mais elle rajoute un mot qui n'est pas dans le texte grec. Dans le texte grec, et c'est important pour moi, dans le texte grec, alors on peut accepter celle-là, c'est un choix qu'ils font, voilà, c'est tout. Mais je vais quand même vous dire l'autre. Le texte grec, il dit « Dieu veut être agréable et il le fait au travers de ces personnes qui sont dans le bateau. » Dieu veut être agréable à Paul pour le restaurer dans son âme, dans ses forces, parce qu'il en a peut-être jusque-là, Paul. Il faut comprendre aussi la fatigue, etc. Le fait de ne pas manger, tous ces tracas, ces empêchements, ces embûches. Eh bien, Dieu veut lui être agréable, donc il va répondre, il va soulager son malheur en lui montrant quoi? Eh bien, il lui dit, j'ai fait en sorte que ces 275 personnes qui vous ont rejoint, toi, Aristarque et Luc, soient rassemblées avec toi pour qu'à travers leur expérience de salut, ils sont en train de faire naufrage, ils vont tous être sauvés. Donc, au travers de cette expérience de sauvetage, eh bien, il te démontre que je suis là et que quand j'ai résolu une chose, de sauver quelqu'un et de faire avec lui une mission, eh bien, elle se fera. Donc, Paul, tu n'as pas à t'inquiéter. Tout se passe bien, ta mission se fera. Ces 275 personnes de tout horizon sont la démonstration que Dieu accompagne, Dieu agit, Dieu nous sauve. Et ce sauvetage devient une figure du salut. Vous remarquez le texte, Paul parle bien de salut. Après, dans les versets suivants, il parle de salut. Non pas qu'ils sont sauvés par le sauvetage et qu'ils sont à Dieu. Non, c'est une figure, un enseignement. Et Paul avait besoin de ça. Paul avait besoin de cette démonstration. 275 personnes sauvées. Parce que c'est un véritable miracle, hein. Qu'il n'y ait aucun mort sur les 276 personnes en comptant Paul, c'est extraordinaire. C'est absolument extraordinaire. C'est pourquoi, mes amis, prenez courage, j'ai confiance en Dieu, tout se passera comme cela m'a été dit. Oui, tout s'accomplira, parce que Dieu l'a décidé ainsi. Nous devons toutefois échouer sur une île. Donc c'est aussi une révélation, ça va être l'île de Malte. Donc verset 27, la 14e nuit, vers le milieu de la nuit, alors que nous étions ballottés sur l'Adriatique, dans cette traduction, les marins ont supposé que l'on approchait d'une terre. Ils ont jeté la sonde et trouvé 36 mètres de profondeur. Un peu plus loin, ils l'ont de nouveau jeté et ont trouvé 27 mètres. Dans la crainte d'échouer sur des récifs, ils ont jeté 4 ancres à l'arrière du bateau et attendu le jour avec impatience. Attendu le jour avec impatience, traduction moderne. Le verbe, c'est faire des vœux à la divinité. Je préfère restaurer quand même, et c'est tellement humain, face à la perdition, même les pires incrédules vont se mettre des fois à prier Dieu. Là, ils font des vœux, les autres hommes sur ce bateau font des vœux qu'ils puissent enfin voir le jour. C'est pas une question d'impatience, c'est une question qu'ils sont complètement, il y a plus qu'ils s'en remettent à une divinité. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer une fois Eric Tabarly, qui a fait exactement la même chose avec moi. Alors, ce n'est pas avec moi, c'est au cours d'une conférence. Mais il l'a raconté, Eric Tabarly, c'est un grand homme de la mer, un breton, de notre génération. Hein. Et en fait, une conférence de géographie de Roubaix, il racontait ses extraordinaires traversées et tout. Et une question, quelqu'un, mais il n'avait jamais été soumis à des moments terribles et de catastrophes, etc. Si. Et puis, il raconte ça. Il dit, oui, une fois, et puis alors, d'accord. C'est là qu'en fait, tout d'un coup, il dit, eh bien, figurez-vous, j'ai prié Dieu. Là, je ne pouvais pas faire autrement. Alors là, vraiment, je ne pouvais pas. Puis après, il se reprend et puis il dit, bon, une fois que c'était passé, c'est fini. Hein, ça fait un... Et puis, il rigole. Donc, vous voyez, c'est... Mais j'ai vécu un petit peu ça. Enfin, à la part du grand Eric Tabarly. Dixit, Eric Tabarly. Hein. Donc, ils ont fait des vœux pour pouvoir rester en vie et voir enfin le jour. Et que fait en même temps notre Paul? Regardez, lisez. Hein. Alors, c'est où ça? Donc verset 33, « Avant que le jour se lève, Paul a encouragé tout le monde à prendre de la nourriture en disant « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans l'attente sans manger, sans rien prendre. » Plutôt que prier et se confier de façon une prière païenne à divinité, sauf, mais sans s'engager vraiment, Paul, il s'engage, corps et âme, et il dit la première chose, il ne dit pas « Convertissez-vous, vous allez mourir, il est plus que temps. » Qu'est-ce qu'il dit ?« Mangez. Restaure ton corps. » Restaure ton corps, parce que pour être sauvé, tu vas devoir t'engager et tu vas devoir nager ou saisir une flèche. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut manger. Moi, je trouve ça très beau. C'était la plus belle chose spirituelle qu'il puisse dire. Manger, puis il insiste, hein, manger. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se met à manger, mais auparavant, plutôt que prier à la divinité, à faire un vœu, Seigneur, sommes-nous, puis après, comme Tabarly, Taïo. Non. Qu'est-ce que fait Paul? Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Vous voyez le mot qu'il emploie, pas sauvetage, salut. Et aucun de vous ne perdra un cheveu de sa tête. Alors ceci dit, le mot est voisin, il ne faut pas non plus... Mais il prend à conscience ce mot-là. Pour le moment, c'était ça qu'il fallait faire. C'est une figure du salut. Hein? Alors c'est où ça? Voilà. Après avoir dit cela, il a pris du pain, a remercié Dieu devant tous, puis il l'a rompu et s'est mis à manger. On peut le lire, Paul se met à manger. C'est vrai, hein, c'est clair. Mais tu peux aussi le lire d'une autre façon, parce que c'est les termes que reprend finalement l'Eucharistie. À la Sainte-Seine, Jésus commence par prendre du pain, le rompit, et le bénit. Paul fait ça. Donc soit vous prenez la traduction la plus simple, manger du pain, soit Paul a pratiqué, et moi je pense avec Aristarque et Lurque, point une sainte scène pour parler comme les protestants. En fait, donc, ce morceau de pain représente Christ, l'œuvre de Christ à la croix. Ce morceau de pain représente aussi le corps de l'Église. Et là, ce n'est pas le corps de l'Église parce qu'il n'est pas dans une église, hein, sur ce bateau, il est environné de païens. Mais c'est la communauté qui forme ce corps-là. Et donc Paul va prendre ce pain qui représente donc à la fois l'ouvrage de Christ de salut, mais aussi cette communauté à vivre, et il va se le mettre à le briser, et il va le distribuer, et il va en manger bien sûr une partie, pour montrer son engagement, et il confie à Dieu, il demande à Dieu que Dieu, de même que cette nourriture que tu donnes va nourrir mon corps, et bien toi agis maintenant au travers des corps de ces prisonniers et des membres de l'équipage et de mes frères chrétiens, les deux autres frères chrétiens et de moi-même, pour que nous ayons assez de force pour pouvoir être sauvés. Seigneur, agis avec nous. C'est le sens de la Sainte Cène. C'est le sens de la Sainte Cène. Il prend ce corps et il le rompit et il le donne. Alors tous ont repris courage et ont aussi mangé. Peut-être qu'ils n'ont pas tout compris, mais on remarque qu'ils reprennent à ce moment-là courage et ils se mettent à manger. Ça a fonctionné, si j'ose dire. La perspective de cette Eucharistie partagée avec ce groupe, eh bien, Dieu a agi et Dieu a motivé ces hommes pour pouvoir mettre toute leur force et aller être sauvés. Nous étions 276 personnes en tout sur le bateau. Une fois rassasiés, ben, ils ont mangé. Et bien mangé. Ils ont jeté le reste. Pourquoi ? Ben pour essayer de surélever par rapport à l'enfoncement dans l'eau, parce qu'on approche du rivage. Vous vous rappelez qu'on a lu que c'était 27 mètres, enfin 36 mètres et 27 mètres. Donc, pour aller plus loin possible vers la côte et moins marcher et moins nager, si vous voulez. Hein ? Au lever du jour, sans reconnaître l'endroit, ils ont aperçu un golfe avec une plage et décidé, si possible, d'y faire échouer le bateau. Ils ont détaché les ancres pour les laisser aller dans la mer et en même temps relâché les attaches de gouvernail. Puis ils ont mis au vent la voile d'Artimon et se sont dirigés vers le rivage. Mais ils sont tombés vers ces 41 sur un banc de sable où ils ont fait échouer le bateau. L'avant du bateau s'y est enfoncé et a été immobilisé, tandis que l'arrière se brisait sous la violence des vagues. Les soldats étaient d'avis de tuer les prisonniers de peur que l'un d'eux ne s'échappe à la nage. Ne les condamnons pas. Parce que la loi romaine effectivement stipulait que des militaires qui gardaient des prisonniers, s'ils laissaient s'échapper les prisonniers, ils le remplaçaient à l'exécution. Donc faut comprendre. Faut comprendre. Mais je voudrais qu'on s'arrête un petit peu là sur l'officier, le centurion. Il est devant un choix. À la fois, il aime Paul et il veut que Paul remplisse sa mission. Et à la fois... si on laisse échapper des prisonniers, on s'expose. Et lui le premier, c'est lui le chef. Hein. Parce que les Romains sont comme ça, hein. Discipline. Hein. C'est lui le chef, il est responsable. Que va-t-il faire? Est-ce qu'il va choisir la sécurité de laisser exécuter les prisonniers? C'est la loi. Ils sont déjà condamnés à mort. De toute façon, ce n'est qu'un verdict fait en avance, si vous voulez, par rapport à une réalisation finale. Ils sont condamnés à mort. Par contre, Paul ne l'est pas encore condamné à mort. Donc peut-être aussi qu'il a peur que dans l'emballement général de cette catastrophe, eh bien, il tue les prisonniers, et puis y compris le prisonnier spécial, le prévenu, Paul, qui n'est pas encore jugé. Que va faire l'officier ? L'officier va choisir de suivre Paul. Il va choisir de... Mais c'est un acte de foi extraordinaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il dit, la loi romaine passe après la réalité de permettre à Paul de remplir sa mission. Car le verbe qui est utilisé ici est un verbe très spécial. Il est composé d'un verbe, qui indique une autre motivation. Il veut lui permettre, il veut le conduire à bon port. Péri, parce qu'il y a bon port dans le texte auparavant. Mais conduire à bon port veut dire le texte. Voilà, le verbe. Il veut le conduire à bon port. Il veut qu'effectivement, il puisse remplir sa mission. C'est ça qu'il vise. Mais je trouve que c'est un acte de foi extraordinaire. On peut méditer cet exemple de centurion. Vous l'auriez fait, vous ? Hein ? Vous l'auriez fait ? Mais il l'a fait. Les soldats étaient d'avis de tuer les prisonniers de peur que l'un d'eux ne s'échappe à la nage. Mais l'officier qui voulait sauver Paul, donc qui voulait le conduire à bon port, qui voulait sauver Paul, les a empêchés de mettre ce projet à exécution. Il a ordonné à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers à l'eau pour gagner la terre et aux autres de s'agripper à des planches ou à des débris du bateau. C'est ainsi que tous sont parvenus sains et saufs à terre. Et Dieu va continuer d'accompagner parce que, en réalité, ces prisonniers vont bien arriver à Rome. À Malte, ils auraient très bien pu trouver un moyen pour s'enfuir. Non, ils vont être gardés. On ne sait pas ce qu'ils adviennent pour eux. Mais la chose qu'il faut voir lorsqu'il veut être agréable, je vous l'ai dit, qu'on a vu, le verbe grec dit que Dieu était bienveillant avec Paul depuis longtemps. Et quand on mesure tout ce qu'on vient de voir, à la prison, il a pu recevoir l'église de Césarée. Durant le voyage, il a pu bénéficier de l'aide de deux de ses amis. C'était absolument incroyable. Et ensuite, la démonstration, tous ces hommes rassemblés pour démontrer qu'effectivement, Dieu est maître des éléments. Donc, Paul, tu vas faire ta mission, même si toutes les apparences sont contraires. Je voudrais qu'on retienne ça comme leçon. Dieu nous accompagne. On ne le voit pas, mais il permettra que nous remplissions chacune notre fonction. Et ce n'est pas parce qu'il y a des embûches, des choses qui peuvent faire apparaître que ça traîne au niveau projet, que forcément c'est condamné, c'est mauvais, Dieu n'en veut pas du tout. Il y a d'autres fructifications qui sont à en attendre. Ayons les yeux de la foi, regardons nos frères et sœurs et puis les événements de la vie avec les yeux de la foi. Et ne croyons pas que tout ce qui est matériel est matériel et ce qui compte, c'est le spirituel. Là, dans ce tupo, dans cette figure du salut, ce qui comptait, c'était manger. Manger tout ce qu'il y a de plus basique, le matériel. Ça, c'était spirituel. Je rappelle que la Bible enseigne que le matériel est issu du spirituel. Il ne faut pas opposer les deux. C'est le regard qu'on a sur les choses matérielles et sur les choses spirituelles qui peut être mauvais. Et ça, il faut se repentir, évidemment. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur ce chapitre, un sauvetage extraordinaire qui nous montre que Dieu est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde.